Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons l'étude des conditions dramatiques de lutte dans lesquelles nous nous trouvons sur la terre. L'Écriture sainte nous dit que la vie de l'homme sur la terre est un combat armé continuel. C'est dans le livre de Job. Il faut que nous voyions ce que fut la chute de l'homme. Et cela pour plusieurs raisons. La première, parce que cela nous montre que l'homme était soumis à une épreuve, et cela nous montre la réalité de l'épreuve. Et la deuxième raison, qui est peut-être plus importante encore, c'est que, à cause de cette chute, l'épreuve désormais n'est plus une épreuve paisible, comme Dieu l'avait voulu, comme il l'avait voulu pour les anges. Elle est une épreuve dramatique, une épreuve dans les larmes, et on peut même dire dans le sang et dans les larmes. Si nous n'avons pas compris la raison des choses, alors nous nous étonnons de ce sang, de ces larmes. Soit nous faisons comme beaucoup de gens du monde qui refusent l'épreuve parce qu'elle est pénible, soit au contraire nous nous voilons les yeux, nous nous aveuglons sur la nature de l'épreuve, sur son caractère dramatique, et nous cherchons finalement à fuir la croix. Quel est le motif de la création des hommes? Le même que pour les anges. C'est de vivre dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette citation est de l'Écriture sainte. Vivre dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est révélé donc. C'est-à-dire partager le bonheur de Dieu, la lumière du Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, l'amour du Saint-Esprit. Pour cela, Dieu va donner des aides considérables à l'homme. L'homme a besoin d'une double aide. Il a besoin d'une aide tout d'abord parce qu'il est une créature. Et cette aide, il en a besoin comme les anges, ou les anges en avaient besoin comme lui, c'est l'aide de la grâce, à savoir que aucune créature ne peut entrer de plein pied dans la sainte intimité ou société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela n'est réservé qu'au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour qu'une créature puisse entrer dans cette société, il faut qu'elle soit élevée, appelée d'une part, mais élevée, et qu'elle reçoive cette aide surnaturelle qu'on appelle la grâce, cette vie surnaturelle qui va s'épanouir ensuite dans la contemplation de la Sainte Trinité. Et cela, c'est pour les anges comme pour les hommes. Donc Dieu crée Adam et Ève dans la grâce, comme il a créé les anges dans la grâce. Ensuite, Dieu va donner à Adam et Ève des dons au-delà de la nature, qui ne sont pas des dons de la grâce, c'est pourquoi on les appelle préternaturels. Préternaturel, c'est-à-dire à côté de la nature, une perfection qui n'est pas due à la nature, qui reste malgré tout dans l'ordre naturel. Je m'explique, les quatre dons, la science, l'intégrité, l'immortalité et l'impassibilité, avec en plus une paix dans les conditions de vie, avec toutes les plantes et les animaux, nous le verrons. Le premier don, le plus important, la science, qui contenait deux choses, qui contenait tout d'abord une connaissance des choses de Dieu, d'une part, ça, ce n'est pas surnaturel, c'est préternaturel, c'est la foi, mais surtout une connaissance de toutes les choses naturelles qu'il faut connaître pour aller facilement jusqu'à Dieu et réaliser facilement le salut. Alors cette connaissance fut donnée à Adam parce qu'il n'avait pas de maître, il était le premier. Et lui, Adam, devait la transmettre à ses enfants qui, ayant un maître, n'auraient pas besoin de recevoir cette science infuse. Cette science ne portait que sur les choses utiles au salut, donc Adam n'avait certainement pas la connaissance des ce que nous appelons les inventions modernes, l'électricité, l'ordinateur et tout le reste, qui pour lui étaient totalement inutiles au salut. Totalement inutiles. Qui ne sont pas très utiles pour nous, mais maintenant que les hommes les ont utilisés, alors nous baignons dedans, c'est un autre problème, nous verrons cela plus tard. Par contre, ce qu'Adam connaissait, c'était la bonne conduite sur terre pour vivre comme il convient à des serviteurs de Dieu. Le deuxième élément de la science en Adam, c'était le fait de ne pas pouvoir se tromper, donc son infaillibilité, et ça, ce privilège devait passer à ses descendants. L'intelligence d'Adam, quoique limitée, parce qu'elle est une intelligence humaine qui est en dépendance de nos conditions corporelles de vie, était une intelligence claire, droite et infaillible. Le don de l'intégrité, c'est le fait que du moment que Adam soumettait son âme à Dieu, son corps était soumis à son âme. Adam et Ève, ça aurait dû passer dans leurs descendants. C'est-à-dire aucune révolte possible de la nature corporelle, aucune gourmandise, aucune paresse. Le corps était, grâce à ce don d'intégrité, un serviteur impeccable de l'âme elle-même au service de Dieu. Troisièmement, le don d'immortalité, c'est-à-dire que Adam, à la fin de sa vie, devait entrer au ciel sans la mort tragique, il serait entré au ciel comme la Sainte Vierge. Enfin, la Sainte Vierge est morte très probablement. Enfin, une fois ressuscitée, elle entre au ciel portée par les anges. Adam et Ève et tous les hommes seraient entrés au ciel à la fin de leur vie sans la mort tragique. Ils auraient été glorifiés, leur corps aurait été glorifié en même temps et nous serions tous entrés au ciel comme cela. L'impassibilité, c'est le fait de ne pas pouvoir souffrir. Pas pouvoir souffrir parce que le corps avait une telle perfection que rien ne pouvait l'entamer, ne pouvait le blesser, ne pouvait le rendre malade. Et puis, du fait qu'Adam et Ève vivaient en telle harmonie avec les animaux d'une part, mais même tout l'environnement, si je peux me permettre ce mot moderne, tout l'environnement qui était à leur service, il n'y avait pas de souffrance, pas de faim, puisque les fruits étaient à portée de leurs mains, etc. Seulement, n'oublions pas que ces dons préternaturels ne sont qu'une aide parce que l'essentiel du paradis terrestre, c'est de vivre dans la contemplation de Dieu. Le paradis terrestre était comme un vaste couvent, je vous l'ai dit, dans lequel Adam et Ève auraient vécu comme des moines, mais avec une aisance parfaite, sans les épreuves et les difficultés que connaissent les moines. Avec quand même une épreuve, je vais vous dire laquelle, toujours là, et qui est indissociable de la condition de créature. Mais s'ils répondaient bien à cette épreuve, tout le reste était facile pour rendre aisée leur contemplation de Dieu. Il y avait une aide apportée par le monde, je viens de vous le dire. Le monde était au service d'Adam. Le monde n'était pas l'ennemi de l'homme. Au contraire, était son ami. Une aide également apportée par les bons anges. Une très belle amitié des anges gardiens et de tous les anges. Lorsque saint Thomas d'Aquin étudie les anges, il les étudie d'abord par rapport à Dieu, et ensuite la mission des anges ici-bas, puisque ange veut dire envoyé, cette mission des anges envoyés par Dieu pour aider leurs frères humains. Il devait y avoir, il y avait dans le paradis terrestre, une amitié. Alors les anges demeuraient invisibles, puisqu'ils sont des purs esprits, ils sont invisibles. Malgré tout, Adam en avait connaissance, par la foi. Les anges étaient très proches de lui, et sans les voir, sans les entendre, il savait qu'il avait en eux des amis. Ève aussi, et leurs descendants, s'il n'y avait pas eu le péché. Troisièmement, à quelle épreuve Adam était-il soumis? Adam était nécessairement soumis à une épreuve, parce que la créature ne peut pas recevoir la récompense sans avoir fait la preuve de sa fidélité. L'épreuve à laquelle étaient soumis Adam et Ève était, comme pour les anges, une épreuve d'humilité, de reconnaissance de ce que leur perfection leur venait de Dieu. Certes, ils étaient parfaits, d'une perfection naturelle. Certes, ils avaient des grands dons, des dons surnaturels, préternaturels et surtout surnaturels. Et ces dons et cette perfection venaient de Dieu, et cela, Adam et Ève devaient le reconnaître. Pour que ce soit bien clair, Dieu met dans le paradis terrestre, au milieu de tous les arbres qui étaient à la libre disposition d'Adam et Ève, à côté de l'arbre de vie qui entretenait leur immortalité, il met l'arbre de la science du bien et du mal, et il leur dit, vous voyez, tous ces arbres sont à vous, vous en disposez comme vous le voulez. Pourquoi comme vous le voulez? Parce que, en raison de l'intégrité, du moment qu'Adam et Ève étaient soumis à Dieu, tout le reste en dessous était dans l'ordre, et tout leur vouloir était dans l'ordre. Mais, dit-il, cet arbre-ci, vous n'y toucherez pas, vous ne toucherez pas à ses fruits. C'est défendu. Sinon, vous mourrez. On appelle cet arbre l'arbre de la science du bien et du mal parce que c'est celui qui révèle soit l'adhésion d'Adam au bien, soit sa révolte et c'est le mal. Cet arbre n'est pas symbolique. L'Église a rappelé que les premiers chapitres de la Genèse n'étaient pas qu'une belle histoire symbolique. Dieu se met à la portée des hommes et l'arbre est un véritable arbre. Que se passe-t-il? Adam et Ève refusent cette perfection qui leur vient de Dieu, plutôt comme pour les anges. Comme pour les anges. Adam était trop intelligent pour croire qu'il pourrait se faire égal à Dieu. Vous me dites, c'est pas Adam, c'est Ève en premier. Oui, je le sais bien. Bon, c'est quand même Adam le grand responsable, parce que c'était à lui de guider sa femme. C'était lui qui était le chef de l'humanité. Pas seulement le chef de la famille, le chef de l'humanité. C'était lui qui avait reçu la science infuse. Et c'était à lui de dire à sa femme quel est le but qu'on doit poursuivre et de la ramener dans le droit chemin. Vous allez me dire, le péché est dû au démon. Le démon n'a fait que suggérer. Bien sûr, il y a l'action du démon. Mais il n'a fait que suggérer. Celle qui a choisi d'écouter la suggestion et d'aller jusqu'au bout de sa révolte, c'est Ève. Et ensuite, Ève l'a suggéré à Adam, et celui qui a accepté la suggestion d'Ève et qui a choisi d'aller jusqu'au bout, c'est Adam. Quelle est cette suggestion? Le démon leur dit à Ève, vous serez comme des dieux, même épreuve que pour les anges. Il est évident que Adam n'a pas un instant pu croire qu'il serait égal à Dieu. C'est pas possible. Et puis il était trop intelligent pour croire qu'on puisse être égal à Dieu. Non, c'est comme pour les anges. Une égalité de similitude, c'est-à-dire que Adam à penser qu'il pouvait se passer de Dieu pour sa propre perfection, qu'il pouvait se passer de la loi de Dieu et de l'aide de Dieu et de Dieu lui-même pour arriver à son terme. Je crois que je vous ai parlé de la révolte des adolescents la dernière fois en vous parlant du péché des anges. Il faut que j'y revienne, parce que nous nous étonnons de cette révolte d'Adam. Nous lui disons, mais comment a-t-il pu? Eh bien, regardez, un mauvais adolescent, je parle d'un mauvais adolescent, c'est pas un bon adolescent, c'est important de voir ce qu'est un bon adolescent. C'est un enfant qui a fait sa première communion, qui est plein de Dieu, qui agit avec Dieu, qui répond toujours oui à Dieu. Alors, il entre dans l'épreuve, attention, pas dans la crise, hein. Le bon Dieu ne met jamais dans la crise, mais dans l'épreuve. Il entre dans l'épreuve de l'adolescence, c'est-à-dire que pour la première fois, il va devoir se diriger soi-même et non plus être dirigé par ses parents. Il va avoir des choix à faire. Normalement, l'adolescence commence avec l'entrée en apprentissage chez un patron, à l'extérieur de la famille, c'est la première sortie de la famille, et c'est la première fois qu'on a des choix. Aucune ne sont pas très difficiles à faire, puisque on a tout l'héritage des parents, tout ce qu'on a reçu d'eux pendant l'enfance, et puis on a tout ce que Dieu a donné, notamment dans la première communion et les communions suivantes, etc. Et un adolescent normal pose un acte d'humilité, il reconnaît la vérité de tout ce qu'il a reçu, il reconnaît qu'il n'est encore qu'un adolescent et pas un homme, il reconnaît qu'il n'est qu'une créature, et par conséquent, il entre dans l'épreuve en s'appuyant sur toutes les certitudes qu'il a reçues dans l'enfance. À ce moment-là, c'est une véritable épreuve, parce que effectivement, il va falloir qu'il choisisse ses camarades, qu'il choisisse d'écouter ceci et pas cela, de faire ceci et pas cela, de diriger sa vie, etc., jusqu'à des choix qui vont devenir très importants à la fin de l'adolescence, le choix de l'épouse ou de l'époux, ou de la vie religieuse. Maintenant, vous voyez des adolescents qui sont en crise. Que sont-ils ? Ils sont des révoltés. Ils disent, je n'ai plus besoin de papa, je n'ai plus besoin de maman, je n'ai plus besoin de leur surveillance, je sais bien ce que j'ai à faire, je suis assez bien formé comme cela. Et c'est le drame, notamment chez beaucoup de jeunes traditionalistes, un peu par notre faute. Nous avons tout donné pour qu'ils conduisent bien leur vie, mais nous avons oublié de donner l'humilité. Et du coup, eh bien, ils rejettent non pas ce que nous leur avons donné, mais la dépendance. Et rejetant la dépendance, ben ils rejettent tout. Ainsi ont fait Adam et Ève. Ils ont cru qu'ils pouvaient y arriver tout seuls. La conséquence de cela, c'est que la lutte, enfin l'épreuve, plus exactement. L'épreuve dans laquelle devait se dérouler la vie d'Adam et Ève, qui aurait été une épreuve exactement semblable à celle d'un enfant qui vient de faire sa première communion. C'est une épreuve simple, facile, paisible. L'enfant qui a fait sa première communion vit naturellement en union avec Dieu. Oui, il vit dans un monde mauvais, mais cela ne touche pas. Quand il découvre, par exemple par la croisade eucharistique, qu'il faut convertir des pécheurs, il découvre qu'il y a des pécheurs, il est tout surpris, et il dit « Mais comment peut-on pécher? Moi j'aime le bon Dieu. » Vous allez me dire que je brosse un tableau idyllique et que vos enfants ne sont pas comme ça, ils ont quand même beaucoup de tentations, de défauts et même de péchés. Je ne vous dis pas le contraire, mais cela reste très extérieur malgré tout. Dans le fond, ils sont soumis à Dieu. Dans le fond, ils aiment le bon Dieu. Et ils aiment aimer le bon Dieu. Adam et Ève auraient vécu dans les mêmes conditions, de façon adulte, bien entendu. Mais l'amour de Dieu leur aurait été facile, aisé, et donc leur soumission leur aurait été aisée, facile. Dieu avait tout prévu pour cela. Évidemment, étant donné les conditions de vie de l'homme, Cette soumission devait être continuellement renouvelée. Comme pour un enfant, vous voyez, qui doit continuellement vivre dedans. À chaque fois, c'est un nouvel acte de soumission, d'humilité. À chaque fois qu'il obéit, à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il répond aux inspirations. De même pour Adam et Ève, toutes les inspirations de Dieu auraient été reçues. À chaque fois, il aurait fallu refaire cet acte d'humilité, mais il aurait été facile. Ce qui a rendu la chose difficile, c'est la première révolte. Alors du coup, la première révolte fait changer les conditions, et l'épreuve, au lieu de demeurer cette épreuve paisible que je vous ai décrite, devient une épreuve dramatique dans le sang et dans les larmes. Et Dieu dit, eh bien maintenant, pour faire la preuve de ta soumission, de ton amour de moi, la preuve que tu me sers loyalement, il s'adresse à Ève et lui dit deux choses, tu enfanteras dans la douleur, c'est-à-dire que désormais la maternité sera pour toi fort pénible. Deuxièmement, tu seras soumise à ton mari, elle l'était déjà, c'est naturel, mais cela veut dire que ce sera pénible d'être soumise à ton mari. Puis il se tourne vers Adam et lui dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est-à-dire que tu dirigeras ta famille désormais au milieu des ronces et des épines que la terre produira, et non plus au milieu de la paix. Heureusement, heureusement, Adam et Ève acceptent le châtiment, acceptent les nouvelles conditions de l'épreuve. Dieu leur rend sa grâce, et désormais commence un nouvel âge de l'humanité. Le premier âge n'aura pas duré très longtemps, les pères de l'Église pensent qu'il a duré une journée. Ça a été très bref, hélas. Commence un nouvel âge de l'Église, l'âge de l'épreuve dans les larmes et dans le sang. Heureusement, Dieu promet le Sauveur, Jésus-Christ, qui va partager nos larmes et notre sang, mais qui va les partager, hein, qui va rendre fructueux nos larmes et notre sang en partageant notre épreuve dans les larmes et dans le sang. Et ça, je vous en parlerai après de Jésus-Christ, parce que la prochaine fois, je vous parlerai des conditions de l'épreuve, de la nécessité de l'épreuve. Le Concile de Trente, un très long et très beau et très détaillé chapitre sur ce sujet, et cela vaudra vraiment la peine que nous entrions dans la pensée de l'Église. En attendant, rappelons-nous que pour nous aider, le bon Dieu nous a donné non seulement le Sauveur, mais il nous a donné sa Mère, la Sainte Vierge, vers laquelle nous crions à chaque fois que nous sommes dans la difficulté et dans l'épreuve. Sainte Marie, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.